15. Vaudrait mieux que ça parte cette fois, pensa Roland, sinistre, alors que son pouce ramenait le chien. Sous le vacarme des mouettes, il entendit le clic, aisé, huilé, de l'alvéole qui se verrouillait en place. 16. Le coup parti. 17. Le pistolero n'avait pas visé la tête d'Andolini, mais l'arme dans sa main. Il ignorait s'ils allaient encore avoir besoin de cet homme, mais la chose n'avait rien d'impossible. C'était un type important aux yeux de Balazar, lequel s'était révélé largement aussi dangereux que Roland l'avait supputé. La prudence était donc de mise. La balle toucha sa cible. Rien d'étonnant à cela. Il en alla différemment du pistolet d'Andolini, et partant d'Andolini lui-même. Roland avait déjà vu le fait se produire, mais seulement une ou deux fois dans toutes ces années où il avait assisté à des échanges de coups de feu. « Pas de chance, mon gars », pensa-t-il en regardant son adversaire s'éloigner, chancelant, hurlant, vers la plage, la chemise et le pantalon éclaboussés de sang. La main qui avait tenu le Colt Cobra s'achevait maintenant à mi-paume. Le pistolet n'était plus qu'un morceau de ferraille tordu, gisant sur le sable, méconnaissable. Eddie rivait sur Jake des yeux ronds. Plus personne n'irait préjuger inconsidérément du niveau d'intelligence de cet homme sur la foi de son faciès néandertalien, vu que ce faciès n'était plus qu'un souvenir. Il s'y était substitué une bouillie de chair sanguinolente autour du trou noir de sa bouche, ouverte sur un long cri.
Mon Dieu, que s'est-il passé ?
Ma balle doit s'être coincée dans le canon de son arme à la seconde même où il empressait la détente, répondit le pistolero, sec, précis, comme s'il faisait une conférence de balistique à l'école de police. Il en a résulté une explosion qui a déchiqueté la culasse et entraîné, à mon sens, celle d'une ou deux autres cartouches.
Achève-le ! Dit Eddie.
Il tremblait plus fort que jamais, et ce n'était plus seulement dû à l'action conjuguée de la fraîcheur nocturne et de la brise marine sur son corps nu.
« Mais fin à ces souffrances, pour l'amour du... »«
Trop tard, » dit le pistolero avec une froide indifférence qui glaça Eddie jusqu'aux os. Et celui-ci se détourna juste un peu trop tard pour se soustraire à la vue des homardstruosités qui grouillaient aux pieds d'Andolini, lui arrachaient ses mocassins Gucci, avec leur contenu, bien sûr. Hurlant, agitant spasmodiquement les bras devant lui, Andolini s'écroula. Les monstres le recouvrirent, avides, le dévorèrent vivant sous le feu roulant de leurs questions anxieuses.
« Il se que chic ?»« Est ce que chul ?»« À ce que châle ?»« Ou ce que choque ?»«
Mon Dieu !» gémit Eddie. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?»«
Tu vas prendre l'exacte quantité de... »« Poudre du diable ?» dit le pistolero. « Cocaïne, » entendit le jeune homme. « Que tu as promise à ce Balazar. Ni plus, ni moins. Et puis, on retourne là-bas. » Il regarda Eddie. « À ceci près que cette fois, je t'y accompagne en tant que personne distincte. »«
Seigneur, tu peux faire ça ?»
Question à laquelle il répondit aussitôt.
« Évidemment que tu en as la faculté. Je devrais plutôt te demander pourquoi tu veux être physiquement présent. »
« Parce que, vu ce qu'il y a à faire, tu ne pourrais pas y arriver seul, » dit Roland. « Viens. » Eddie se retourna vers le grouillement des horreurs quitineuses, un peu plus bas, sur la plage. Il n'avait jamais eu la moindre sympathie pour Jake Andolini, mais ce spectacle le révulsait quand même.
« Bien !» répéta Roland avec impatience. « On n'a pas l'éternité devant nous, et je n'aime pas trop ce que je vais devoir faire. Je n'y ai jamais été contraint et n'avais jamais pensé l'être un jour. » Un pli amer tordit ses lèvres. « Cela dit, faut que je m'y habitue. » Eddie rejoignit la silhouette décharnée portée par des jambes qu'il sentait de plus en plus molles. Dans ce crépuscule d'un autre monde, Sa peau nue avait des reflets livides.
« Qui es-tu, Roland ? Qui es-tu, au juste ? Et qu'es-tu ? Et ce feu qui émane de toi, est-ce seulement la fièvre ? Ou un genre de folie ? Alors je crois bien qu'il s'agit des deux. »
Seigneur, il avait besoin d'un fixe. Correction, il en méritait un.
« T'habituer à quoi ? » demanda-t-il. « De quoi parles-tu ? »
« Prends ça, » dit le pistolero, montrant non du doigt, mais de l'espèce de sac qui remplaçait sa main, l'autre antiquité suspendue bas sur sa hanche droite. « Je n'en ai plus l'usage. Pour le moment, du moins, si ce n'est pour toujours. »
« Je... » Eddie déglutit. « Je ne veux pas y toucher. »
« Ça m'ennuie autant que toi que tu y touches, » dit Roland avec une curieuse douceur dans la voix. « Mais je ne crois pas que nous ayons le choix. Il va y avoir du grabuge. »«
Vraiment ?»«
Oui. » Et sans que son regard posé sur le jeune homme perdît en sérénité, il ajouta « Pas qu'un peu, à mon sens. » 18. L'inquiétude de Balazar ne cessait de grandir.
Trop long. Voilà trop longtemps qu'ils étaient dans ces chiottes. Et le silence était trop profond.
Dans les lointains, peut-être, dans l'immeuble d'en face, il avait entendu un échange de cris. Puis plusieurs détonations qui devaient être une explosion de pétards. Mais quand on était dans la branche de Balazar, c'était pas à des pétards qu'on pensait en premier.
Et ce hurlement.
Était-ce vraiment un hurlement qu'il avait entendu ?
Laisse tomber. Ce qui se passe en face n'a rien à voir avec toi. Voilà que tu te comportes comme une vieille bonne femme.
Tout cela, néanmoins, ne présageait rien de bon.
Non, rien de bon.
Jake ! Braya-t-il en direction de la porte close au fond de la pièce.
Pas de réponse.
Il ouvrit le tiroir supérieur gauche du bureau et en sortit son pistolet. Il ne s'agissait pas d'un Colt Cobra ni d'aucune arme assez pratique pour s'ajuster dans un étui à crampons. C'était un Magnum 357.
« Jimmy » appela-t-il. « J'ai besoin de toi !»
Il referma violemment le tiroir. La tour de cartes s'affaissa dans un soupir. Il n'y prêta même pas garde. Jimmy Deletto apparut sur le seuil, ses 120 kilos interdisant toute vision du couloir. Il constata que Dabos avait sorti son arme, et immédiatement extirpa la sienne des profondeurs d'une veste écossaise si voyante qu'elle aurait probablement brûlé la cornée de quiconque aurait commis l'erreur de la regarder trop longtemps.
« Va me chercher Claudio et Twix en vitesse !» lui lança Balazar. « Le gosse mijote quelque chose. »«
On a un problème, patron. » Les yeux de Balazar quittèrent la porte des chiottes pour se poser sur Jimmy.
« Un de plus, » dit-il. « De quoi s'agit-il cette fois ?»
Jimmy se passa la langue sur les lèvres. Dans les meilleures circonstances, il n'aimait déjà pas annoncer une mauvaise nouvelle à Dabos.
Alors, quand il le voyait comme ça... « Eh bien, » dit-il en se repassant la langue sur les lèvres, « il se trouve... « Bordel de merde, accouche !»
gueula Balazar. 19. Les plaquettes de crosse en bois de santal du revolver étaient si lisses que la première prouesse d'Eddie en le recevant fut de manquer le laisser choir sur ses orteils. L'arme était si grosse qu'elle en paraissait antédiluvienne, si lourde qu'il ne voyait pas d'autre moyen de la soulever que de la prendre à deux mains.
« Le recul est fichu de me projeter à travers la cloison la plus proche, » pensa-t-il, « et ce, en admettant que la balle consente à partir. »
Il n'en restait pas moins qu'une part de son être aspirait à tenir cette arme. Répondait à la finalité qu'elle exprimait si parfaitement, sentait son obscure et sanglante histoire, voulait de toutes ses forces y avoir part.
« Nul n'a jamais tenu ce bébé en main s'il n'était le meilleur, » songea Eddie, « du moins jusqu'à ce jour. »«
Tu es prêt ?» lui demanda Roland.
« Non, mais allons-y quand même. »
Il referma sa main gauche sur le poignet gauche de Roland. Celui-ci glissa autour de ses épaules nues un bras droit qu'embrasait l'infection. Ensemble, Ils refranchirent le seuil, passant de l'obscurité venteuse de cette plage, de ce monde à l'agonie du pistolero, à l'éclat froid des tubes fluorescents des toilettes privées de Balazar à la tour penchée. Alors qu'Eddie clignait des yeux pour les habituer à la lumière, il entendit dans l'autre pièce le « On a un problème » de Cimidretto. « N'est-ce pas notre lot à tous » songea-t-il. Et à cet instant, son regard se riva sur l'armoire à pharmacie. Elle était restée ouverte. Il réentendit Balazar demander à Jake de fouiller la salle d'eau, réentendit Andolini demander s'il y avait là un endroit qu'il ne connaîtrait pas. Balazar avait marqué un temps d'arrêt avant de répondre. « Il y a une cache au fond de l'armoire à pharmacie », avait-il fini par dire. « J'y garde deux ou trois bricoles. » Andolini avait fait glisser le volet dissimulant la cache, et il avait négligé de le refermer. Roland, fit Eddie entre ses dents. Le pistolero leva le revolver qu'il avait gardé, en posa le canon sur ses lèvres pour lui faire signe de se taire. Eddie s'approcha sans bruit de l'armoire. Deux ou trois bricoles. Exact. Un flacon de suppositoire, un numéro de jeux enfantins, revue à la quadrichromie sommaire où, nues en couverture, de fillettes d'environ 8 ans s'embrassaient avec passion, et 8 ou 10 échantillons de Keflex. Eddie savait ce dont il s'agissait. Exposé comme il l'était aux infections tant locales que généralisées, les junkies faisaient une grosse consommation de Keflex. C'était un antibiotique. « Un de plus, entendit-il. Balazar avait l'air à bout. De quoi s'agit-il, cette fois ? « Si tu ne mets pas KO les saletés de microbes qu'ils travaillent, se dit-il, rien n'y parviendra. » Il ramassait les boîtes de Keflex, s'apprêtant à les fourrer dans ses poches, quand il prit conscience de ne pas en avoir. L'aboiement rauque qui lui échappa n'eut rien à rire. Il allait mettre ça dans le lavabo et le reprendrait plus tard, s'il y avait un plus tard. « Eh bien, disait Cimidretto, il se trouve bordel de merde à couche !» gueula Balazar. C'est le grand frère du gosse, dit Jimmy. Et Eddie se figea, ses deux dernières boîtes de Keflex à la main, la tête inclinée sur le côté. Plus que jamais, il ressemblait à ce chien sur les vieux disques la voix de son maître. Oui, alors, qu'est-ce qu'il a ? Demanda Balazar, perdant patience. Il est mort, répondit Jimmy. Eddie laissa tomber les antibiotiques dans le lavabo et se tourna vers Roland.
« Ils ont tué mon frère, dit-il. »
20. Balazar ouvrit la bouche pour dire à Jimmy de ne pas venir l'emmerder avec ce genre de conneries alors qu'il avait à se préoccuper de choses plus sérieuses, entre autres cette impression qu'il ne voulait pas le lâcher, la sensation qu'Andolini ou pas, le gamin était en train de le baiser. Quand il entendit la voix aussi distinctement qu'Eddie avait dû entendre la sienne ou celle de Jimmy.
« Ils ont tué mon frère !» disait le gosse.
Balazar perdit soudain tout intérêt pour sa marchandise, pour ses questions restées sans réponse, pour tout, bref, sauf la nécessité de stopper net la situation avant qu'elle ne vire franchement à la catastrophe.
« Tue-le, Jake !» hurla-t-il.
Silence. Puis il entendit le gamin répéter
« Ils ont tué mon frère ! Ils ont tué Henry !»
Balazar comprit soudain, il eut la certitude même, que ce n'était pas à Jake qu'Eddie parlait.
« Va chercher les messieurs, dit-il à Jimmy. Tous ! On va lui faire la peau et quand il sera mort, on le transportera dans la cuisine où je m'occuperai personnellement de lui trancher la tête. »
21.
« Ils ont tué mon frère !»
dit le prisonnier. Le pistolero ne dit rien, ne fit que regarder et penser « Ces boîtes, dans le lavabo, c'est le médicament dont j'ai besoin et dont Eddie pense que j'ai besoin. »«
Tue-le, Jake »
entendit-il dans l'autre pièce. Ni lui, ni Eddie n'y prêtèrent la moindre attention.
« Ils ont tué mon frère ! Ils ont tué Henry !»
Balazar parlait à présent de prendre en trophée la tête d'Eddie.
Le pistolero se sentit bizarrement réconforté par la menace. Ce monde n'était donc pas radicalement différent du sien. Celui qui se nommait apparemment Chimmy se mit à brailler pour appeler les autres. S'ensuivit une cavalcade fort peu digne de messieurs. « Tu veux y faire quelque chose ? Ou tu préfères attendre de voir venir ?» demanda Roland.
« Sûr que je veux faire quelque chose !»
rétorqua Eddie, levant l'arme du pistolero, se découvrant capable d'accomplir aisément ce qui, quelques minutes auparavant, aurait sans doute réclamé l'usage de ses deux mains. « Et que veux-tu faire ?» poursuivit Roland, voix lointaine, même à ses propres oreilles. Il était malade, habité par la fièvre, mais ce qui lui arrivait là était l'assaut d'une autre fièvre, différente, qu'il ne lui était que trop familière, celle qu'il avait submergée à Tull. La fièvre des combats qui voilait toute pensée ne laissait subsister que le besoin d'arrêter de penser, de se mettre à tirer.
« Partir sur le sentier de la guerre, » répondit Eddie, très calme.
« Tu ne sais pas de quoi tu parles, » dit Roland, « mais tu ne vas pas tarder à l'apprendre. Dès qu'on a franchi la porte, tu prends à droite, moi je prends à gauche, à ma main. »
Eddie hocha la tête et ils partirent sur le sentier de la guerre.
22. Balthazar attendait Eddie, ou Andolini, ou les deux. L'arrivée d'Eddie, accompagnée d'un total inconnu, d'un grand type aux cheveux gris-noirs, dont le visage semblait avoir été ciselé dans un roc impassible par quelque dieu sauvage, était parfaitement inattendu. À l'instant, il ne sut où tirer. Chimmy n'eut pas ce problème. Davos en avait contre Eddie. Il démolirait donc Eddie en premier, s'occuperait plus tard de l'autre Cazzaro. Il se tourna pesamment vers le jeune homme et par trois fois pressa la détente de son automatique. Les douilles vides s'éjectèrent, courbes scintillantes. Eddie avait déjà plongé dans une folle glissade au ras du sol comme un gamin saisi par la fièvre du samedi soir, un gamin défoncé au point de ne pas s'être aperçu qu'il avait oublié sa tenue de Travolta jusqu'au sous-vêtement. Il glissa avec la bite qui se balançait, les genoux s'échauffant, puis à vif, alors que le frottement se prolongeait. Des trous apparurent dans ce qui, juste au-dessus de lui, était censé représenter un pain noueux et des éclats de plastique s'abattirent sur ses cheveux et sur son dos.
« Mon Dieu, ne me laissez pas mourir à poil et en manque d'héros » pensa-t-il,
sachant qu'une telle prière dépassait le blasphème pour entrer dans la pure et simple catégorie de l'absurde. Il n'en continua pas moins.
« Je suis prêt si c'est mon heure, mais par pitié, accordez-moi un dernier fixe !»
Le revolver que le pistolero tenait dans la main gauche parla. Déjà puissante sur la plage, la détonation fut assourdissante dans cet espace confiné.
« Oh, Jésus !» hurla Chimo Dretto d'une voix étranglée, haletante.
C'était merveille qu'il en eût encore, sa poitrine s'étant soudain creusée comme un tonneau sous l'impact d'un marteau-pilon. Sa chemise blanche commençait à virer au rouge par touches circulaires, comme si des coquelicots étaient en train d'y éclore.
« Oh, oh, Jésus, Jésus, Jésus !»
Repoussé par Claudio Andolini, il s'écroula comme une masse. La pièce entière vibra et deux photos encadrées se décrochèrent du mur. Celle qui montrait Balthazar en train de remettre sa coupe à l'athlète de l'année, un gamin tout sourire, lors du banquet de l'association sportive de la police, atterrit sur le crâne de Chimmy, lui jonchant les épaules de verre brisé.
« Jésus !»
murmura-t-il d'une toute petite voix. Puis le sang se mit à sourdre de ses lèvres. Claudio venait de déboucher avec sur ses talons Trix Postino et l'un des messieurs précédemment en faction dans la resserre. Il avait un automatique dans chaque main et l'autre type une arme de chasse, un Remington, au canoncier si court qu'elle ressemblait à un Derringer qui aurait attrapé les oreillons. Trix était équipé de ce qu'il nommait sa merveilleuse Rambo Machine, un fusil d'assaut à feu continu, un M16.
« Où est mon frère, enculé de junkie ?»
brailla Claudio.
« Qu'as-tu fait à Jake ?»
La réponse ne devait pas outre mesure l'intéresser, car il n'avait pas encore fini sa question qu'il faisait feu des deux armes.
« Je suis foutu !»
se dit Eddie, puis Roland tira de nouveau.
Claudio Andolini fut projeté en arrière dans un nuage de sang. Le sien. Les automatiques s'arrachèrent de ses mains pour glisser sur le bureau de Dabos, échoir en bout de course sur la moquette dans une averse tourbillonnante de cartes à jouer. Le gros de ses tripes toucha le mur une seconde avant qu'il ne les rattrapât.
« Descendez-le !» hurla Balazar. « Descendez, ce foutu spectre ! Le gosse n'est pas dangereux, rien qu'un drogué à poil ! C'est l'once qu'il faut éliminer !»
Il pressa par deux fois la détente du magnum qui se révéla presque aussi bruyant que le revolver de Roland. D'énormes trous au bord déchiqueté se découpèrent de part et d'autre de la tête du pistolero dans le faux bois de la cloison entre le bureau et les toilettes. La lumière crue de ces dernières s'y engouffra, projetant dans la pièce d'épais rayons cannelés. Roland pressa une fois de plus la détente de son arme. Ne s'ensuivit qu'un clic. Long feu.
« Eddie !»
cria-t-il. Le jeune homme leva son propre revolver et tira. La déflagration fut telle qu'il crut un instant que l'arme venait de lui exploser dans la main comme c'était arrivé à Jake. Le recul ne lui fit pas traverser le mur, mais jeta son bras en l'air dans un arc dément qui lui étira douloureusement les tendons. Il vit l'épaule de Balazar se désintégrer en partie, se muer en brune vermeille, et entendit son cri de chat blessé.
« Alors comme ça, le drogué n'est pas dangereux ?» beugla Eddie. « C'est bien ce que t'as dit, connard ! T'as voulu jouer au con avec moi et mon frère, et je vais te montrer qui est dangereux ! Je vais... »
Il y eut une explosion comparable à celle d'une grenade alors que le type de l'arsère entrait dans la danse avec son arme bricolée. Eddie roula pour ne pas être sur la trajectoire de la rafale qui décora la porte des toilettes et les murs adjacents d'une bonne centaine de trous minuscules. En plusieurs points, toutefois, son corps nu en resta piqueté de rouge, et il comprit que si le type avait été plus près, la dispersion du tir moins grande, il n'aurait pas survécu à un pareil essaim de plomb. « De toute façon, je suis foutu » songea-t-il en voyant le type pomper de nouvelles cartouches dans la double culasse du Remington, puis se le caler sur l'avant-bras. L'homme souriait, exhibant des dents particulièrement jaunes, qui n'avaient pas dû être mises en relation avec une brosse depuis pas mal de temps, se dit Eddie.
« Seigneur, je vais me faire tuer par un demeuré aux dents dégueulasses dont je ne connais même pas le nom.
Enfin, j'en aurais au moins collé un Balazar, c'est toujours ça. » Il se demanda si Roland avait encore une seule balle valable. Pas moyen de se souvenir du nombre de fois où il avait tiré.
« Je le tiens !» hurla joyeusement Trix Postino. « Laisse-moi le champ libre, Dario !»
Et avant que le nommé Dario ait pu lui laisser le champ libre, Trix ouvrit le feu avec la merveilleuse Rambo Machine. Le lourd tonnerre de fusil mitrailleur emplit le bureau de Balazar, et ce tir de barrage eut pour premier effet de sauver la vie d'Eddie. Dario était en train de l'ajuster avec son arme au canoncier. Il n'eut pas le temps d'empresser la double détente que Trix l'avait cisaillé en deux.
« Arrête, crétin !»
hurla Balazar. Ou Trix n'entendait pas, ou il ne put s'arrêter, ou il n'en eut pas la moindre envie. Les lèvres retroussées au point de dénuder ses dents luisantes de salive dans un gigantesque sourire de requin, il ratissa la pièce d'une extrémité à l'autre, réduisant en poussière deux pans du décor mural, transformant en tessons les vitres des cadres, arrachant de ses gonds la porte des toilettes. La cabine de douche en verre dépoli de Balazar explosa littéralement. Le trophée qu'il avait reçu l'an dernier pour sa contribution à la lutte contre la polio rendit un son de cloche quand une balle le traversa. Au cinéma, les gens font à la mitraillette une hécatombe humaine. Dans la vie, ça se passe rarement ainsi. Quand il tue, c'est avec les quatre ou cinq premières balles tirées. L'infortuné Dario en aurait témoigné, eût-il encore pu se porter témoin de quoi que ce fût. Après, il arrive deux choses au gars qui essaie de contrôler une arme de ce type, même si c'est un malabar. Le canon commence à monter et le tireur lui-même à se tourner tantôt à gauche, tantôt à droite, selon qu'il a choisi d'infliger le martyr du recul à une épaule ou à l'autre. Bref, il n'y aurait qu'un acteur de cinéma ou un demeuré total pour s'équiper ainsi. Ça revenait à vouloir tuer quelqu'un avec un marteau-piqueur. Un moment, Eddie resta incapable d'œuvrer sur un mode plus constructif que la contemplation de ce prodige d'idiotie. Puis il vit les autres qui se bousculaient à la porte derrière Trix et leva le revolver de Roland.
« Je l'ai !»
beuglait Trix. Tout à l'hystérique exultation du type qui avait vu trop de films pour en être à même de distinguer de la réalité le scénario qui se déroule dans sa tête.
Je l'ai.
Le doigt d'Eddie pesa sur la détente et le crâne de Trix se volatilisa au-dessus des arcades sourcilières. À en juger par le comportement du bonhomme, la perte n'était pas de taille.
Mon Dieu Seigneur, quand ces machins consentent à tirer, ils font réellement des trous dans les choses.
Un puissant kablam retentit sur sa gauche, et du même côté, un sillon brûlant s'ouvrit dans son biceps sous-développé. Il se tourna et vit dépasser le magnum de Balazard de derrière le bureau jonché de cartes. Aussitôt, une nouvelle détonation le fit se plaquer sur la moquette. 23. Roland réussit à s'accroupir, visa le premier de ceux qui déboulaient dans la pièce et tira. Il avait basculé le barillet, éjecté les douilles vides et les balles qui n'étaient pas parties, chargé de neuf une unique alvéole. L'avait fait avec les dents. Balazard venait de clouer Eddie au sol.
Si c'en est une qui a pris l'eau, on est cuits tous les deux.
La cartouche était bonne. Le revolver rugit, décocha son recul. Jimmy Haspio bascula par le côté, le 45 abandonnant ses doigts mourants. Roland eut le temps de voir s'aplatir les deux autres avant d'être lui-même à quatre pattes dans les décombres qui jonchaient le sol. Il rengaina son revolver. L'idée de le recharger avec deux doigts en moins tenait de la plaisanterie. Eddie se débrouillait à merveille. Roland le mesurait d'autant plus que le garçon se battait nu. C'était dur pour un homme, parfois impossible. Il attrapa au passage un des automatiques lâchés par Claudio Rondolini.
« Mais qu'est-ce que vous foutez, merde ?»
hurla Balazard.
« Débarrassez-moi de ces types à la fin !»
George Biondi et l'autre gars qui avait été dans la resserre repartirent à l'assaut. Le dernier braillait quelque chose en italien. Roland atteignit l'angle du bureau. Eddie se releva, visa la porte et ceux qui la franchissaient. « Il sait que Balazard n'attend que ça !» songea le pistolero. Mais il croit être à présent le seul de nous deux qui ait une arme chargée. En voilà encore un prêt à mourir pour toi, Roland. Quelle énorme faute as-tu commis pour inspirer à tant d'autres une loyauté si terrible? Balazard se leva, le pistolero sur son flanc sans en avoir conscience. Il ne pensait qu'à une chose, éliminer ce putain de junkie responsable du désastre. Non! Dit Roland. Balazard se retourna. La surprise s'imprima sur ses traits. Putain de... commença-t-il, changeant de cible. Le pistolero pressa quatre fois la détente de l'automatique. C'était une saloperie bon marché, à peine mieux qu'un jouet, et sa main répugnait à son contact, mais peut-être convenait-il de tuer un homme méprisable avec une arme qui l'était autant. Enrico Balazard mourut avec, gravé sur ce qui lui restait de visage, une expression d'étonnement absolu.
« Salut, George !»
lança Eddie, pressant de nouveau la détente du revolver prêté par Roland. Une fois de plus, la détonation fut positive. « Pas de raté dans ce bébé, » pensa-t-il. « J'ai dû hériter du bon. » George ne put lâcher qu'une balle avant d'être projeté par celle d'Eddie sur l'autre type hurlant qu'il renversa comme une quille. Et cette balle se perdit. Une conviction irrationnelle s'installa dans le jeune homme, celle que l'arme de Roland possédait quelque magie, le pouvoir d'un talisman. Tant qu'il la tenait, il était invulnérable. Le silence tomba. Un silence qu'Eddie n'entendit plus que traversé par les gémissements de Rudy Vecchio, le malheureux qui s'était pris de plein fouet la masse du gros George et gisait dessous avec trois côtes cassées, et la stridence qui lui emplissait les oreilles. Il se demanda s'il pourrait jamais entendre à nouveau correctement. En comparaison de la fusillade qui, semblait-il, venait de s'achever, le concert de rock le plus violent auquel il eut assisté faisait penser à une radio braillant un peu fort. Le bureau de Balazard n'était plus reconnaissable en tant que tel, ni en tant que pièce destinée à un usage quelconque. Eddie promena autour de lui le regard d'un très jeune homme qui, pour la première fois, découvre ce genre de spectacle, un spectacle que Roland connaissait. C'était toujours le même. Que ce fût sur un champ de bataille où des milliers avaient péri par le canon, le fusil, l'épée, la hallebarde, ou dans une petite pièce où il n'avait été que 5 ou 6 à s'entretuer, c'était toujours pareil en fin de compte, un charnier de plus pur la poudre et la viande crue. La cloison entre bureau et toilette n'existait plus à l'exception de quelques montants. Du verre brisé scintillait partout. Le faux plafond, déchiqueté par le clinquant mais 20 feux d'artifice du M16, pendait en lambeaux comme une peau qui pèle. Eddie tout ça. Débouché, ses oreilles perçurent de nouveaux sons. Un brouhaha de voix excitées, des cris dehors, devant le bar, et plus loin, le cœur entrecroisé des sirènes.
« Combien était-il ? » demanda le pistolero. « Est-ce qu'on les a tous eus ?»«
Je crois. » »«
J'ai un cadeau pour toi, Eddie, » fit Kevin Blake depuis le couloir. « Je me suis dit que t'aimerais emporter un souvenir. »
Le projet que Balazar n'avait pu mettre à exécution sur le jeune Dean, Kevin l'avait accompli sur l'aîné. Il balança dans la pièce la tête d'Henry Dean. Eddie la vit et poussa un grand cri. Il se rua vers la porte, indifférent aux échardes et aux bouts de verre qu'il récoltait dans ses pieds nus, criant toujours et tirant ses dernières balles.
« Non, Eddie !»
hurla Roland. Mais le jeune homme ne l'entendait plus. Il avait cessé d'entendre. La 6e alvéole ne rendit qu'un clic, mais il n'était d'ores et déjà plus conscient de rien, sinon que son frère était mort.
Henry. Il lui avait coupé la tête. Une espèce de petite crapule minable avait coupé la tête d'Henry. Et cette petite crapule allait le payer. Oh oui, elle allait le payer.
Il se précipitait donc vers la porte, pressant la détente encore et encore, sans noter que rien ne se produisait, sans noter qu'il avait les pieds en sang et que Kevin Blake franchissait le seuil à sa rencontre, à demi accroupi, un Yama 38 à la main. La rousse tignasse de Kevin lui faisait autour du visage un halo de bouclettes, et il était tout sourire.
24. Il va venir par le bas, s'était dit le pistolero, sachant que même si le pronostic se vérifiait, il allait avoir besoin de chance pour atteindre sa cible avec cette espèce de joujou.
Quand il avait compris que le soldat de Balazar était en train de réussir son coup en attirant Eddie hors de la pièce, Roland s'était redressé sur les genoux, assurant sa main gauche sur le poing droit, ignorant stoïquement le cri de douleur qu'un tel acte lui arrachait. Il n'allait pas avoir 36 chances de réussir. La douleur n'avait aucune importance. Puis, l'homme aux cheveux roux s'était présenté sur le seuil, en position basse comme prévu. Et Roland, comme toujours, n'avait plus de cerveau, juste un œil pour voir et une main pour tirer. Le rouquin s'était soudain retrouvé gisant contre l'autre mur du couloir, les yeux grands ouverts, un petit trou bleu dans le front.
Eddie, debout au-dessus de lui, hurlant et sanglotant, avait commencé à décharger encore et encore sur le cadavre des balles inexistantes, comme si ce type aux cheveux roux ne pouvait jamais être assez mort.
Le pistolero attendait maintenant le mortel feu croisé qui allait cisailler Eddie. Et quand il en constata l'absence, il sut que c'était fini pour de bon. S'il y avait eu d'autres soldats, ils avaient de toute manière déguerpi. Il se releva complètement, tituba un instant, puis pas à pas rejoignit Eddie.
Arrête, dit-il.
Eddie n'y prit pas garde, continua de tirer à vide sur le cadavre.
Arrête, Eddie. Il est mort. Ils sont tous morts. Tu as les pieds en sang.
Eddie l'ignorait toujours, son doigt s'obstinant sur la détente. Dehors, les voix excitées se rapprochaient. Les sirènes aussi. Le pistolero saisit le revolver par le canon et tira dessus. Eddie se retourna. Avant que Roland n'ait pu vraiment se rendre compte de ce qui se passait, Eddie lui avait asséné sa propre arme sur le côté de la tête. Il sentit un jet de sang chaud couler sur sa peau, s'affaissa contre le mur et lutta pour rester debout. Il leur fallait sortir d'ici au plus vite. Mais il se sentit glisser jusqu'au bas de la cloison malgré tous ses efforts. Puis le monde s'évanouit quelque temps, dans un océan de grisaille. 25. Cela ne dura guère que 2 minutes. Puis il réussit à extirper les choses de leur flou et à se redresser. Eddie avait disparu du couloir. Le revolver gisait sur la poitrine du rouquin. Repoussant une vague de vertige, il se pencha pour le ramasser et lui fit regagner son étui au prix d'une maladroite contorsion. « Je veux retrouver mes putains de doigts », songea-t-il avec lassitude. Puis il soupira. Il voulut regagner le bureau dévasté, mais ce retour sur les lieux de leur victoire n'eut guère plus d'allure que les zigzags d'un fêtard éméché. Il s'arrêta, se pencha de nouveau, cette fois pour ramasser tous les vêtements d'Eddie qui pouvaient tenir dans le creux de son bras gauche. Les ululements avaient presque atteint l'entrée du bar. Roland supposait que ceux qui les tiraient d'une corne quelconque appartenaient à une milice. C'étaient les assistants d'un shérif ou quelque chose du même genre. Mais la possibilité qu'il s'agisse d'autres hommes de Balazar n'était pas à exclure. « Eddie !» fit-il d'une voix rauque. Sa gorge était à vif, nouvelle source d'élancement lancinant, plus douloureuse encore que la bosse qui lui ornait le côté du crâne, là où Eddie l'avait frappé avec le revolver. Eddie n'entendit pas ce croassement ou n'y fit pas attention. Il était assis au milieu des décombres, serrant sur son ventre la tête de son frère. Il tremblait de tout son corps et pleurait. Le pistolero chercha la porte, ne la vit pas et fut parcouru d'une déplaisante décharge assez voisine de la terreur. Puis il se rappela. Avec eux deux de ce côté, le seul moyen de susciter l'existence de la porte était d'établir un contact physique avec Eddie. Il tendit la main, mais le jeune homme se recula sans cesser de gémir. « Ne me touche pas !» dit-il. « C'est fini. Ils sont tous morts. Et ton frère aussi. »«
Mêle pas mon frère à ça !»
hurla Eddie, puéril, et une autre crise de tremblement le traversa. Il referma les bras, amenant la tête coupée à hauteur de sa poitrine, et, la berçant, leva sur le pistolero des yeux baignés de larmes.
« Il a toujours pris soin de moi, tu comprends ?»
Il sanglotait si fort que Roland avait peine à saisir ses paroles.
« Toujours et tout le temps !» Pourquoi n'ai-je pas veillé sur lui juste cette fois, après tout ce temps qu'il a passé à s'occuper de moi ?
Ah bon ? Pensa durement Roland. Regarde-toi un peu, assis là, tremblant comme un type qui vient de croquer dans une pomme de l'arbre à fièvre. Sûr qu'il a magnifiquement pris soin de toi. Il faut qu'on s'en aille, dit-il.
S'en aller ?
Pour la première fois, une vague compréhension s'inscrivit sur les traits d'Eddie, vite remplacée par une expression inquiète.
Je ne vais nulle part, et surtout pas dans cet endroit où il y a ces espèces de gros crabes ou de je ne sais quoi qui ont bouffé Jake.
Quelqu'un cognait sur la porte d'entrée, hurlait d'ouvrir. Tu veux rester et avoir à rendre compte de ces cadavres ? Demanda le pistolero.
« Mon contre-fiche !» dit Eddie. « Un oeil est mort, ça n'a plus aucune importance, plus rien n'en a. »«
Pour toi, peut-être, » dit Roland. « Mais tu n'es pas tout seul, prisonnier. »«
Arrête de m'appeler comme ça !»
glapit Eddie.
« Je continuerai tant que tu ne m'auras pas démontré que tu es capable de quitter ta cellule !»
hurla le pistolero en retour. Ça lui déchira la gorge, mais il hurla quand même.
« Lâche ce bout de viande pourrie et cesse de piailler !»
Eddie le regarda, les joues ruisselant de larmes, les yeux écarquillés, la peur en eux.
« Nous vous offrons une dernière chance de vous rendre !»
fit une voix amplifiée dans la rue. Eddie crut bizarrement y reconnaître celle d'un animateur de jeux télévisés.
« Le groupe d'intervention est sur place. Je répète, le groupe d'intervention est sur place.
Qu'est-ce qui m'attend de l'autre côté de cette porte ? Demanda tranquillement Eddie.
Vas-y, dis-le-moi. Si tu es fichu de me le dire, il se peut que je vienne. Même si tu mens, je le saurai.
La mort, probablement, lui répondit Roland. Mais avant cette échéance, tu n'auras pas le temps de t'ennuyer. C'est à une quête que je te convie. Bien sûr, tout s'achèvera sans doute dans la mort. Notre mort à tous quatre dans quelque lieu étrange. Mais si nous devions triompher, une flamme brilla dans son regard. S'il nous est donné de triompher de tous les obstacles, Eddie, tu verras quelque chose surpassant tout ce à quoi tu as pu croire dans tes rêves.
Quelle chose ?
La tour sombre.
Et où est-elle, cette tour ?
Loin, bien loin, au-delà de la plage où tu m'as trouvé. À quelle distance exacte, je ne sais.
Et qu'est-ce que c'est ?
Je n'en sais rien non plus, sinon qu'il s'agit peut-être d'une sorte de cheville. Un pivot central maintenant ensemble tous les plans de l'existence. Tous les temps, toutes les dimensions.
Tu as dit quatre. Qui sont les deux autres ?
Je ne les connais pas encore. Et n'ont pas encore été tirés.
Comme je l'ai été, ou plutôt comme tu souhaiterais me tirer ?
Oui.
Dehors, une explosion tonna comme un tir de mortier. La vitre de la fenêtre sur la façade principale de la tour penchée vola en éclats, et de suffocants nuages de gaz lacrymogène commencèrent à envahir la salle.
Alors ? Demanda Roland.
Il aurait pu contraindre la porte à se matérialiser en agrippant Eddie, puis en le faisant basculer de force avec lui dans son monde. Mais il avait vu le jeune homme risquer sa vie pour lui. Il l'avait vu se comporter avec toute la dignité d'un pistolero en dépit de sa dépendance à la drogue, et bien qu'il ait été forcé de se battre nu comme au jour de sa naissance. Il voulait en conséquence lui laisser le choix.
Quête, aventure, tour...
« Triomphe !»
fit Eddie, et un pâle sourire s'esquissa sur ses traits. Ni l'un ni l'autre ne prêta la moindre attention à la nouvelle tournée de bombes lacrymogènes qui venait d'être servie dans le bar et explosait au sol avec des sifflements prolongés. Les premières tentacules de gaz irritant s'insinuaient à présent dans le bureau de Balazar.
« Ça m'a l'air encore plus chouette que dans les bouquins où Edgar Rice Burroughs parle de Mars. » Henry m'en lisait parfois des passages quand on était gosse. Il n'y a qu'une chose que t'as oubliée.
Quoi ?
Les pin-up au sein nu ?
Le pistolero sourit.
Sur le chemin de la tour sombre, dit-il, tout est possible.
Un autre frisson secoua Eddie qui souleva la tête de son frère, effleura de ses lèvres la joue froide au teint cendreux. Puis... il posa en douceur la sanglante relique et se leva.
Bon, dit-il, de toute façon, je n'avais rien prévu d'autre pour ce soir.
Prends ça, dit Roland.
Il lui tendit les vêtements.
Mets au moins les chaussures. T'as vu dans quel état sont tes pieds ?
Dehors, sur le trottoir, deux flics masqués de plexiglas et portant des gilets pare-balles enfoncèrent la porte de la tour penchée. Dans les toilettes, Eddie, qui avait remis son slip et chaussé ses Adidas, mais avait bordé là son habillage, tendait un par un à Roland les échantillons de Keflex, et Roland, un par un, les glissait dans les poches du jean d'Eddie. Quand toutes les boîtes furent ainsi remisées, Roland passa de nouveau son bras droit autour du cou du jeune homme, qui, de nouveau, lui prit la main gauche. Et la porte fut là.
rectangle d'ombre. Eddie sentit le vent de cet autre monde soulever de son front les cheveux plaqués par la sueur. Il entendit rouler les vagues sur la grève caillouteuse, eut les narines emplies de leur saline senteur. Et en dépit de tout, de la douleur et du chagrin, il désira soudain voir cette tour dont Roland parlait. Henry mort, que lui restait-il en ce monde? Leurs parents n'étaient plus, et depuis qu'il avait plongé pour de bon dans l'Hérault 3 ans plus tôt, pas de régulière non plus. Rien qu'une régulière succession de coureuses, d'enquiquineuses et de sniffeuses. Ils franchirent le seuil, Eddie menant même un peu le mouvement. De l'autre côté, il se trouva tout à coup en proie à de nouveaux frissons et à des crampes atroces. Premier symptôme du manque. Et avec eux vinrent les premières pensées de panique.
« Attends !» cria-t-il. « Je veux y retourner. Juste une minute. Son bureau, oui, dans l'un des tiroirs ou dans l'autre bureau. La poudre. Il leur en fallait pour garder Henry dans les vapes. Je la veux. J'en ai besoin. »
Il posa un regard suppliant sur le pistolet roux qui resta de marbre. « C'est une part de ta vie qui appartient désormais au passé, » dit Roland. Sa main gauche se tendit.
« Non !»
hurla Eddie, se jetant sur lui toute griffe dehors.
« T'as rien pigé, mec ! J'en ai besoin ! Besoin !»
Il aurait aussi bien pu s'acharner sur du roc. Le pistolero acheva son geste et repoussa la porte. Elle claqua, son morne qui parla des fins dernières, puis bascula sur le sable. Un peu de poussière se souleva autour. Il n'y avait rien derrière, et plus rien maintenant qui fût écrit dessus. Ce passage entre deux mondes venait de se fermer à jamais.
« Non !»
cria encore une fois Eddie, et les mouettes lui répondirent, cris narquois, comme méprisant. Les hommes monstruosités posèrent leurs questions, lui suggérant peut-être de se rapprocher pour mieux les entendre. Et il s'écroula sur le côté, en larmes et frissonnant, tout vibrant de crampes.
« Ce besoin passera, » dit le pistolero, qui se débrouilla pour extraire une des boîtes de la poche d'Eddie, de ce jean si peu différent du sien. Une fois de plus, il reconnut des lettres, mais pas toutes. « Reflet », semblait-il écrit. « Reflet », un remède de cet autre monde.
« Tue ou sauve », murmura Roland avant d'avaler à sec deux des cachets. Puis il prit les 3 autres astines et s'étendit près d'Eddie, le prit dans ses bras du mieux qu'il put, et passer quelques moments difficiles, tous deux s'endormirent.